Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Parfois, quand vous sortez chez le médecin, réussir à lire l'ordonnance qu'il vient de vous donner, ça relève du véritable exploit. Mais saviez-vous que les historiens sont confrontés à des défis similaires pour déchiffrer les textes du passé ? Ça constitue même une discipline à part entière, la paléographie, l'étude des écritures anciennes. Pour en savoir plus à ce sujet, j'ai récemment reçu en entretien Mark Smith, qui est professeur de paléographie à l'École des Chartes. On est revenu ensemble sur la paléographie, sur l'histoire de l'alphabet latin ou encore sur celle de l'arobase. Mais tout ça, vous le découvrirez quand l'entretien complet sera disponible sur le podcast d'ici quelques jours. Pour l'heure, je vous propose de nous attarder sur l'un des domaines de la paléographie qui permet de dater un texte rien qu'en voyant l'aspect de l'écriture. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, je vous laisse le découvrir, alors bonne écoute. Au début de l'entretien, tu nous disais que donc, tu te concentres principalement sur l'écriture latine, et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus, parce que quand on a préparé cet entretien, t'expliquais qu'il y avait une typologie de l'écriture latine qui permet, suivant le style de l'écriture que tu vas étudier, de dater plus ou moins approximativement le texte. En d'autres termes, la personne utilise des formules pour écrire, et en fonction des formules qu'elle écrit, tu te dis « Ah, ça c'est telle période, ça c'est telle période ». Comment ça fonctionne ?
Alors ça fonctionne effectivement dans le temps. Dans le temps, on a une succession de types d'écriture, hein, dépend de, en dernière analyse, comme je disais, des modèles d'enseignement. Hein. Qu'est-ce qu'on donne dans les écoles ou dans les monastères, hein, comme modèle, ceux qui apprennent à écrire. Et donc là, on voit très bien se succéder dans le temps des types d'écriture. Alors bon, certains sont très définis, hein. On dit même canonisés, cristallisés, fixés pour des durées parfois assez longues, et d'autres, au contraire, sont plus expérimentales, ils évoluent rapidement. Donc en fonction de ces différentes formes d'écriture, hein, de ces différentes incarnations de l'alphabet, on peut dire c'est entre telle date et telle date, parfois assez vaguement et parfois au contraire très précisément, quand on a affaire à des écritures qui évoluent rapidement dans le temps. Donc c'est par exemple, dans l'Antiquité, voilà, toutes les premières occurrences qu'on a de l'alphabet latin, c'est une écriture unique, peut-on dire, qui est la capitale, hein, avec des variations formelles et techniques selon qu'on écrit sur papyrus, sur marbre, évidemment, c'est pas la même chose. Et puis, petit à petit, à travers des écritures cursives, alors, qui évoluent relativement vite, entre le 1er et le 3e siècle, on voit se former de nouveaux types dont sont issus dès le 3e, 4e siècle, des écritures qu'on peut déjà appeler minuscules. Voilà, donc ça, le passage de la capitale à la minuscule, c'est une phase essentielle d'évolution d'écriture latine, hein, dès les premiers siècles de notre ère. Et ensuite, bon, selon les époques, on a des variations et une diversité plus ou moins grande selon qu'il y a une relative unité en Occident, ou au contraire, une grande diversité, mais ça dépend essentiellement du contexte, disons, politique, socioculturel, du fait qu'à l'époque de Charlemagne, voilà, on verra s'établir une écriture, la minuscule caroline, dans l'ensemble de l'Empire carolingien, avec d'autres écritures qui ont évolué différemment et qui perdurent à l'extérieur de l'Empire, hein, donc dans les îles britanniques, en Espagne, dans le sud de l'Italie, on aura d'autres écritures, permet de les localiser facilement. Et puis, ça évolue vers les écritures gothiques et puis les écritures italiques de la Renaissance. Enfin, on va bien se succéder toutes ces phases-là. Et ce qui est un peu surprenant, c'est de voir à quel point dans l'enseignement de l'écriture aujourd'hui, dans les modèles qui sont fournis aux enfants des écoles, on a l'impression que l'écriture, c'est ça. Hein, c'est un modèle unique. C'est ce qu'on enseigne aux enfants, un modèle qui pratiquement n'a pas bougé depuis un siècle, alors qu'il est beaucoup plus figé qu'il ne l'a été dans le passé, et en même temps, il est enseigné disons, d'une manière un peu dogmatique, comme voilà, l'écriture, ça pousse sur les arbres, et ça a cette forme-là, sans avoir aucune conscience de tout ce qu'il y a comme histoire et comme évolution derrière les formes qu'on a aujourd'hui. Et donc, on peut dire en gros que l'écriture, les écritures qu'on présente aujourd'hui à l'école primaire, c'est en fait plusieurs écritures. Donc, on a l'écriture qu'on apprend à lire qui n'est pas la même que celle qu'on apprend à écrire. Celle qu'on apprend à lire, c'est des capitales qui remontent à l'Antiquité romaine et des minuscules qui remontent à l'époque de Charlemagne. Deux écritures collées ensemble. Et l'écriture qu'on apprend à écrire est complètement différente. C'est une écriture issue des marchands et banquiers anglais du XVIIIe siècle. Hein, donc, cette cursive qu'on connaît tous, qu'on appelle l'anglaise, avec ses boucles, qui était penchée jusque vers 1900, qui a été redressée vers 1900 parce que les médecins craignaient que cette écriture penchée produise le strabisme et la scoliose chez les enfants. Et donc, on va redresser cette écriture. Et le modèle, c'est encore celui qu'on a aujourd'hui. Ce qui est, on peut dire, une aberration historique, puisqu'il a été conçu pour des instruments d'écriture qui ne sont pas du tout ceux d'aujourd'hui. Hein. Et c'est des plaques et des lignées, etc. Et donc, l'écriture est filée dans des normes qui, historiquement, sont un peu aberrantes.
Merci d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À très vite.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.